Patricia Martin, votre mot de la semaine, 1er mai. Alors, est-ce la fête du travail, comme l'a laissé entendre Emmanuel Macron, ou bien la fête des travailleurs? Eh bien, vous en parlez ce matin avec l'historienne Danielle Tartakovsky.
Qui a écrit d'ailleurs un livre, hein, il y a quelques années, sur le sujet, sur le 1er mai, La part du rêve. Bonjour.
Bonjour.
Le président de la République a effectivement parlé de fête du travail et pas de fête des travailleurs. Vous pensez qu'il a eu tort? Vous pensez qu'il l'a fait exprès?
Comme je ne peux pas imaginer 30 secondes qu'il ignore tout de ce qui est une journée de lutte, née en 1890, je pense que ça relève de la provocation.
De la provocation, vraiment. Donc il savait très bien ce qu'il disait.
Ben, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit de la provocation que de l'ignorance.
Dans l'imaginaire, est-ce que le 1er mai est lié pour vous à 1936 ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'imaginaire, effectivement, ils sont liés tout à fait abusivement, puisqu'en fait, le 1er mai 36, qui précédait de peu les élections, il ne s'est pratiquement rien passé pour éviter les provocations. Mais c'est vrai que les militants parlent toujours du 1er mai 36, qui n'a pour ainsi dire pas eu lieu, c'est le 1er mai 37, qui a été très puissant. Ça dit quelque chose, et sur le 1er mai, et sur le 36. Le 1er mai, finalement, ça a été construit, s'est construit, comme une journée qui portait tous les espoirs du monde du travail. Et à partir de là, son histoire tend à se confondre avec les moments où cet espoir, les moments trop rares, où cette histoire s'est trouvée réalisée.
Et où on peut aussi parler de victoire, puisque pour qu'il y ait fête, il faut qu'il y ait une victoire.
C'est ce que disaient les anarchistes dès 1891. Qu'est-ce que c'est que cette idée de parler de fête du travail, qui n'était pas un mot qui apparaissait dans l'appel initial, mais qui s'est immédiatement imposé. Et les anarchistes disent, mais en fait, tout ça n'est pas sérieux. La fête, c'est quand on aura gagné. Donc le débat sur le mot fête, c'est un débat qui est pratiquement constitué du 1er mai.
Avant d'arriver en France et en Europe, le mouvement a démarré aux États-Unis ?
Oui et non. Il y avait eu en 1886 aux États-Unis, à Chicago, une grande manifestation pour l'obtention des journées de 8 heures qui a été la revendication constitutive du 1er mai.
Parce que les gens travaillaient plus de 10 heures, c'est ça à l'époque ?
Souvent plus de 12.
Plus de 12, d'accord.
Et enfin, disons couramment 10, mais ça pouvait aller jusqu'à 12. En 1889, c'est-à-dire 2 ans plus tard, se réunit à Paris un congrès des organisations socialistes réémergentes qui imagine de se mobiliser le même jour sur une même revendication internationale qui est l'obtention d'une législation limitant à 8 heures partout dans le monde la journée du travail. Ils imaginent le 14 juillet, mais des intervenants disent c'est quand même un peu franco-français. Ils imaginent la Commune, c'est encore pire parce que bien sûr retombée internationale, mais malgré tout une grande défaite, même si porteuse d'espoir. Et donc finalement on se rallie à la date du 1er mai. Pourquoi ? Bien parce que une branche du syndicalisme américain a prévu de mobiliser à nouveau le 1er mai. C'est normal aux États-Unis, c'est le jour de renouvellement traditionnellement des baux et des contrats.
Oui.
Ils décident de récupérer cette date puisque de toute façon il y a une manifestation prévue aux États-Unis. La fédération majoritaire des syndicats américains, qui ne tient pas du tout à se trouver mêlée avec les socialistes ou avec les anarchistes, se déplace sur le 4 septembre.
Alors pour en revenir à la France, il faut évidemment parler de 1941 et là on est sous Vichy parce que pour rallier les ouvriers au gouvernement de Vichy, Pétain prend la décision que le 1er mai devienne férié.
C'était pas seulement pour rallier. Le 1er mai, comme le 14 juillet, ont été, en 1940, l'occasion de ce qu'on a appelé les manifestations patriotiques. Mmh. C'était souvent une poignée d'hommes ou de femmes, hein, quelquefois 5 ou 6, mais ils risquaient leur vie. Et certains en sont morts. Donc c'était une journée dangereuse pour le gouvernement. Et pour pallier à ce danger, il fallait effectivement en faire autre chose. Par ailleurs, mobiliser cette journée autour de la charte du travail, qui était une forme de coopération capital-travail imaginée par le maréchal Pétain, totalement perturbée par les conditions économiques, par ailleurs, de l'occupation. À quoi s'ajoutait le fait qu'il se trouve que le 1er mai est le jour de la Saint-Philippe, ce qui faisait évidemment une conjonction de planètes assez intéressante.
Parce que Pétain s'appelait Philippe. comment est-ce qu'alors, je sais bien qu'il est encore un peu tôt, mais comment est-ce que l'historienne que vous êtes peut analyser ce qui s'est passé là, ce 1er mai 2019 ?
Ben, je dirais que ce 1er mai me paraît tout à fait intéressant, dans la mesure où ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis le 17 novembre, les Gilets jaunes en nombre se sont trouvés présents. En province, c'est pas la première fois, mais à Paris, c'était plus nouveau, soit avec une telle ampleur, même s'ils n'étaient pas majoritaires, présents dans la manifestation. Et je crois que là, le 1er mai trouve bien sa fonction, qui est de dessiner un champ. un champ d'espoir, un champ d'objectif qui permet, non pas la convergence, je ne sais pas trop ce que ce mot veut dire, mais qui permet à des forces de se retrouver quelque part dans une histoire commune qui peut porter vers quelque chose à construire en commun.
Eh bien, merci Daniel Tartakovsky. Et puis, je renvoie à votre livre donc sur ce 1er mai. Ça s'appelle « La part du rêve » et c'est paru chez Hachette.